Bonjour Nicolas Bay.
Bonjour.
Le président de la République a-t-il trouvé le ton et l'attitude juste après l'incendie de la cathédrale Notre-Dame de Paris ?
Moi, je dirais pas ça. Je dirais qu'il était en phase avec les Français dans à la fois la tristesse face à cette tragédie qui a été l'incendie de Notre-Dame et la volonté, évidemment, de le reconstruire, de rénover entièrement ce magnifique édifice qui fait partie de notre patrimoine, de notre civilisation française, européenne et chrétienne.
S'il a été en phase, on peut dire qu'il a trouvé le temps juste.
Oui, il était en phase, mais on a aussi eu le sentiment qu'il utilisait un petit peu cet événement pour redorer son propre blason. On voit que Emmanuel Macron, d'une manière plus générale, ces dernières semaines, multiplie finalement un peu les subterfuges, y compris le grand débat, la restitution du grand débat, l'annonce d'une tournée régionale qu'il ferait pour parasiter totalement la campagne des européennes. Nous avons observé, nous, évidemment, une pause, naturellement, une trêve dans la campagne, dans l'action politique à la suite de cet incendie. Mais on a le sentiment que chez Emmanuel Macron, il y a quelques arrière-pensées.
On va venir à toutes ces questions. D'un mot, le Rassemblement National s'est-il fait une religion, en quelque sorte, pourrait-on dire, sur cette question, la question de savoir s'il faut restaurer à l'identique ou avec des techniques éventuellement plus modernes, la cathédrale de Paris.
Moi, je crois que le respect du patrimoine commande en effet de restaurer à l'identique. On voit bien que les sommes qui ont été rassemblées très rapidement, en quelques jours seulement,
on est à plus d'un milliard d'euros,
permettent évidemment de faire cette rénovation sans qu'elle pèse lourdement, et même sans qu'elle pèse du tout, sans doute, sur les comptes publics. Donc évidemment qu'il faut le faire. Et d'ailleurs, l'idée de faire une flèche qui serait différente de celle qui a été détruite me semble un peu saugrenue, parce que c'est oublier le fait que la flèche est certes très postérieure à la construction initiale de la cathédrale, puisque la flèche date de la fin du 19e siècle, mais elle avait été construite dans la continuité, ouais, sur le plan architectural et sur le plan du style de la cathédrale. Donc créer une rupture de style, c'est créer une rupture aussi dans la transmission de ce patrimoine dont nous ne sommes pas propriétaires, dont nous sommes simplement les dépositaires, et on doit le transmettre et l'embellir au maximum. Donc le rôle des pouvoirs publics, eh bien, c'est pas de modifier Notre-Dame, c'est simplement de lui faire retrouver toute sa splendeur.
Alors le président de la République devrait donc annoncer la semaine prochaine, a priori en début de semaine, les réponses qu'il propose à la crise des gilets jaunes, des annonces qu'il avait reportées précisément après l'incendie de la cathédrale de Paris, mais dont la teneur a été assez largement divulguée par la presse. À quoi vous attendez-vous ? Un changement de pied, du coup, pour conserver un effet de surprise ou le maintien du cap ?
Bon, je pense que, comme beaucoup de Français, je me fais aucune illusion en réalité sur les intentions d'Emmanuel Macron. Il va faire comme en décembre. Sa parole était attendue, un propos solennel, et puis finalement rien. Rien, la simple remise en cause ou le report de quelques mesures qui étaient annoncées. La dernière fois, c'était la fiscalité sur le carburant. Cette fois-ci, ce sera sans doute le dégel, en quelque sorte, des pensions de retraite. Tout ça est dérisoire, n'est pas à la hauteur.
On parle aussi de baisse d'impôts pour les classes moyennes.
Oui, bon, il va sans doute rajouter une tranche dans les tranches basses ou diminuer légèrement les impôts. Mais c'est une diminution massive que les Français attendent. C'est un changement de cap politique. Il a concédé des éventuels ajustements à la marge tout au long du grand débat. Mais s'il n'est pas capable de remettre en cause la logique du libre-échange et de la suppression de toutes les protections économiques, s'il n'est pas capable de baisser massivement la fiscalité sur les classes populaires et les classes moyennes, on est à un niveau confiscatoire en France. S'il n'est pas capable de s'attaquer au grand tabou qui est celui de l'immigration et de son coût exorbitant pour les finances publiques. S'il n'est pas capable de revenir sur son choix d'aller encore plus loin, encore plus fort dans le fédéralisme européen, et c'est évidemment le sujet de la campagne électorale, et bien à ce moment-là, la déception des Français sera très forte. Ils n'attendent pas qu'il explique sa politique, qu'il fasse de la pédagogie, qu'il revienne sur telle ou telle mesure technique. Ce que une large majorité de Français attend, c'est un changement total d'orientation.
Alors, vous avez parlé de la campagne des européennes et le Rassemblement national a présenté en début de semaine, c'était lundi, son programme pour ce scrutin. Il y a deux nouveaux concepts qui apparaissent, le localisme et le juste échange. Vos adversaires présentent notamment le localisme comme une vision identitaire de l'écologie. Est-ce que c'est une définition qui vous paraît juste ?
C'est une vision enracinée. Ce que défendent nos adversaires, Emmanuel Macron en tête, c'est la logique du libre-échange mondialisé, c'est-à-dire fabriquer en Asie des produits manufacturés qui sont vendus en Europe. Un certain nombre de produits sont ensuite retraités à l'autre bout du monde, en Afrique notamment. Tout ça a un coût écologique exorbitant. Tout ça a détruit nos emplois, les emplois industriels hier, les emplois agricoles demain, parce qu'on a des projets de libre-échange déjà en application avec le Canada, en cours de négociation avec les pays du Mercosur, le marché sud-américain, avec l'Océanie également, la Nouvelle-Zélande et l'Australie. Donc tout ça peut être mortel pour notre économie. Ce que nous défendons avec ce concept du localisme et du juste échange, c'est finalement, à chaque fois qu'on peut produire, consommer, retraiter, dans un périmètre géographique raisonnable, tous les produits qui peuvent être fabriqués ou produits en France et en Europe doivent être d'abord fabriqués et produits en France et en Europe, et qu'ensuite on fasse appel à l'importation uniquement dans les domaines où on ne peut pas, on n'est pas en capacité de produire ou de fabriquer chez nous, bah c'est un système assez sain, c'est un système qui permet la relocalisation des activités humaines, et ça évite d'avoir 50 000 supercargos qui sillonnent les mers et les océans du monde et qui polluent chacun individuellement plus que des millions de véhicules individuels.
Et ça ne contreviendrait pas aux accords de l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce.
Non, ça contrevient évidemment pas aux accords de l'OMC, mais ça contrevient en effet, ça nécessite une renégociation des traités européens. Ouais. Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a fait en Europe ? On a organisé la concurrence déloyale à l'intérieur du marché commun avec, par exemple, le travail détaché, et on a ajouté à cela la suppression des protections à l'extérieur, soit les accords de libre-échange, soit l'abaissement des tarifs douaniers, qui aboutit à ce que des produits fabriqués à l'autre bout du monde, par des gamins qui travaillent 18 heures par jour, qui sont payés au lance-pierre et qui polluent la planète entière dans des usines qui ne respectent aucune de nos normes environnementales, eh bien ils arrivent sur le marché français et sur le marché européen à des coûts défiant toute concurrence qui tuent nos emplois industriels.
Sur l'euro, aujourd'hui les choses sont claires, il n'est plus question de sortir de la monnaie commune et unique. Est-ce que ça signifie que lorsque le Front National à l'époque défendait la sortie de l'euro, notamment pendant la campagne présidentielle, il était dans l'erreur, ou que les Français n'ayant pas compris, vous avez décidé de modifier le programme?
Bah, je crois qu'on
un peu comme un prof de maths qui dirait « mes élèves ne comprennent pas, donc je vais changer le programme ».
Non, je crois, en fait, on n'a pas changé de philosophie. C'est-à-dire, il faut poser la question monétaire. Une monnaie doit être un outil qui sert l'économie du pays concerné. On voit bien qu'avec l'euro, on en a eu les inconvénients, on n'a pas eu les avantages. On a une monnaie qui sert les intérêts de l'Allemagne, des anciens pays de la zone marque, au détriment de la plupart des autres qui sont dans les 19 pays de la zone euro. Et donc, il faut évidemment une réforme en profondeur pour que l'euro serve nos intérêts, qu'il soit moins fortement évalué. On a 60 milliards de déficit de balance commerciale. Il faut donc sortir de la logique d'un euro qui est géré par la BCE, qui est indépendante, mais qui est installée à Francfort, et c'est pas un hasard, et dont le seul objectif est de lutter contre l'inflation, et pas, par exemple, de lutter contre le chômage, alors que la plupart des banques centrales, la Fed aux États-Unis, par exemple, a dans son mandat explicitement la lutte contre le chômage. Certains qui nous ont quittés depuis avaient une vision un peu radicale sur cette question de l'euro, demandant la sortie unilatérale, rapide ou brutale. C'était une erreur. En revanche, dire il y a un problème avec la monnaie, on doit avoir une monnaie qui serve l'économie française, on doit faire en sorte que l'euro, dont on a eu un certain nombre d'inconvénients majeurs et qu'il faut pas négliger, qu'au moins on en ait les avantages, qu'en clair demain on soit capable aussi de vendre nos Airbus en euros ou d'acheter notre pétrole en euros, ça je crois que c'est un discours qui est raisonnable et qui est surtout pragmatique. On n'est pas idéologue sur cette question. Oui. On veut simplement que la monnaie puisse être au service de notre économie. C'est pas le cas.
Et la Banque Centrale Européenne ne devrait plus être indépendante.
Je crois qu'il faut une gouvernance politique.
Oui.
Et puis je crois que la Banque Centrale est théoriquement dans les textes indépendante, mais encore une fois, tout le monde a compris et tout le monde a vu, ces 20 dernières années maintenant, ou quasiment, qu'elle servait quand même les intérêts de l'Allemagne principalement, qui a plus de, des centaines de milliards d'euros d'excédents commerciaux, alors que beaucoup de pays de la zone euro aujourd'hui souffrent de cette monnaie trop fortement évaluée.
Merci Nicolas Bay, bonne journée.